Donc bonjour à tous. Et donc nous continuons avec le livre des Actes des Apôtres. Et aujourd'hui nous allons entamer le chapitre 2 qui va nous parler de la Pentecôte. Donc nous allons lire dans Acte 2 les 13 premiers versets. Acte 2, versets 1 à 13. Nous lisons pour la gloire de notre Seigneur. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Parthes, Mèdes et Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient, et disaient, « Ils sont plein de vin doux. » Parole du Seigneur. Amen. Et donc, vous allez me permettre de faire un petit retour au premier chapitre pour remettre un peu les choses dans le contexte. Nous avons vu que Luc avait commencé son premier chapitre en parlant de tout ce que Jésus avait commencé de faire et d'enseigner. Et donc cela impliquait que dans les actes, Jésus continue son œuvre, même s'il est absent, visiblement. Mais il n'est pas inactif. Il œuvre où il est, au ciel. Nous avons vu aussi que les disciples avaient encore besoin d'être corrigés dans leur compréhension du royaume. En acte 1, verset 6, ils demandaient, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Mais Jésus les détourne d'une curiosité mal orientée pour les ramener à leur vocation première. En acte 1, verset 8, où il disait, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Autrement dit, Jésus leur dit, le royaume viendra selon le plan du Père. Mais votre responsabilité à vous, elle est claire. C'est-à-dire, attendre la promesse, recevoir la puissance et rendre témoignage. Et nous avons vu encore que les disciples ont dû apprendre la dépendance. Ils ne devaient pas se précipiter, ils ne devaient pas improviser, ils ne devaient pas compter sur leurs ailes ou sur tout ce qu'ils avaient eu quand Jésus était présent. Tout ce qu'ils devaient faire, c'était d'attendre. Attendre. Et cette attente ne veut pas dire une inaction de leur part. C'était une attente qui était remplie de prière, une attente qui était remplie d'obéissance, une attente qui était remplie de communion fraternelle. Et à la fin du chapitre 1, on les voit rassemblés, persévérants, tous, hommes, femmes, et même Marie, mère de Jésus, persévérer dans la prière, dans commun d'accord. Maintenant, en acte 2, ce que Christ a promis arrive. Le chapitre 1 nous plaçait dans l'attente, et le chapitre 2 nous introduit dans l'accomplissement. Le chapitre 1 nous montrait l'Église regardant vers le ciel, et le chapitre 2 nous montre le ciel répondre à l'Église. Le chapitre 1 nous parlait d'une promesse, et le chapitre 2 nous montre que la promesse est réalisée. Et il faut dire d'emblée que la Pentecôte n'est pas d'abord l'histoire d'une expérience religieuse. C'est plutôt l'histoire de la fidélité de Dieu. Ce n'est pas une expérience. Par ce qui s'est passé, on voit la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. C'est l'histoire de la victoire du Christ exalté. C'est l'histoire de la promesse du Saint-Esprit. C'est l'histoire de l'inauguration visible de la nouvelle alliance. Le Seigneur Jésus, par son œuvre parfaite, a acquis pour son peuple toutes les bénédictions du salut et qui les applique efficacement par le Saint-Esprit. La Pentecôte est précisément une manifestation glorieuse de cette vérité. Le Christ médiateur, mort, ressuscité, exalté, applique maintenant les fruits de son œuvre en répandant l'Esprit Saint que lui-même a promis. À la Pentecôte, le Christ exalté accomplit la promesse du Père en répandant le Saint-Esprit sur son Église afin de manifester la nouvelle alliance, de se constituer publiquement son peuple et de lancer le témoignage de l'Évangile vers, c'est important de le dire, toutes les nations, vers toutes les nations. Et donc, je n'aurai pas un point, je n'aurai pas trois points, j'aurai quatre points. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas déborder. Mon premier point, le premier verset. Au verset 1, nous lisons, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. La Pentecôte, dans l'Ancien Testament, était la fête des semaines, célébrée 50 jours après la Pâque. Elle était liée à la moisson, aux prémices et aussi à l'action de grâce. Et tout cela est chargé de sens ici. Pourquoi ? Parce que Christ, notre Pâque, est immolé, a été immolé. Il est ressuscité, il est monté au ciel. Et maintenant, au jour fixé par Dieu, commence une nouvelle moisson. Mais ce n'est pas une moisson qui est agricole, c'est une moisson spirituelle. Rien n'est accidentel, rien n'est improvisé. Tout arrive selon le dessein du Père. Et on le voit au chapitre 3, sur les décrets de Dieu, et même sur la providence divine, au chapitre 5 de nos confessions, qui affirme que Dieu a ordonné toutes choses selon le conseil très sage et très saint de sa volonté. La Pentecôte est une illustration glorieuse. Dieu n'a pas seulement promis l'Esprit, il a aussi fixé le moment exact de son effusion. Et cela nous enseigne une leçon simple, mais profonde aussi. Dieu n'est jamais en retard dans l'accomplissement de ses promesses. Dieu tient ses promesses. Les disciples avaient attendu, ils auraient pu se lasser, ils auraient pu se fatiguer. Ils auraient pu chercher à faire démarrer l'œuvre. Mais non, le ciel s'ouvre quand Dieu l'a décidé. Et combien cela nous parle aujourd'hui? Nous qui voulons toujours les réponses de Dieu à l'heure que nous choisissons. Nous voulons la croissance tout de suite. Nous voulons un réveil tout de suite. Nous voulons voir les fruits tout de suite. Mais Dieu nous apprend que l'attente croyante n'est pas stérile. Elle est plutôt l'école de la foi. Et enfin, Luc précise, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble. On ne parle pas d'individualisme ici. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et le Seigneur ne vient pas ici confirmer une spiritualité éclatée, où chacun est dans son coin. Il vient sur une assemblée qui est unie, obéissante, et une assemblée très importante, qui est rassemblée. L'Église n'est pas un supplément facultatif du plan de Dieu. Non. Elle est le peuple visible que le Christ rassemble pour lui-même, pour sa gloire. Et dans notre confession de foi au chapitre 26 sur l'Église, nous lisons que tous ceux qui sont appelés par la parole et par l'Esprit à la foi en Christ sont rassemblés en une communion visible de saints. Le Saint-Esprit est donné pour former, pour édifier et envoyer un peuple qui se rassemble pour la gloire de son Dieu. Il n'est pas donné pour nourrir un individualisme religieux. Et cela doit nous reprendre et nous corriger, nous instruire. Nous ne pouvons pas dire « j'aime Jésus, mais je n'ai pas besoin de l'Église ». La Pentecôte ne justifie pas l'isolement spirituel. Elle fonde au contraire la vie visible du peuple de Dieu, la communion des saints et cet amour fraternel. Mon deuxième point, des versets 2 au verset 4. Nous lisons « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Et ici, nous entrons dans le cœur de l'événement. Luc nous dit, tout à coup, il vint du ciel. Tout à coup, il vint du ciel. La Pentecôte ne naît pas du génie des disciples. Ce n'est pas les disciples qui étaient sur place, qui ont commencé à faire des expériences personnelles. Non, tout à coup, il vint du ciel. Et Jean Calvin insiste beaucoup sur ce point, où il dit, dans toute l'œuvre du salut, Dieu précède l'homme. Dieu précède l'homme. Ici encore, l'Église ne se met pas elle-même en mouvement. L'Église est visitée, l'Église est saisie et l'Église reçoit. Et cela nous protège contre deux erreurs opposées. Premièrement, la présomption. C'est-à-dire qui pense que l'on peut produire l'œuvre de Dieu par des méthodes humaines, par nos propres forces. Deuxièmement, c'est le désespoir, qui pense que si nous sommes faibles, rien n'arrivera. Non. Ce qui doit arriver par la fidélité de Dieu va arriver, parce qu'il a décrété toute chose. Et ce que Dieu promet, Dieu le donne. Et Luc parle ensuite d'un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il ne dit pas simplement un vent, il dit comme un vent. Et dans toute l'écriture, le vent et le souffle évoquent souvent l'action créatrice et vivifiante de Dieu. Ben on le voit dans Genèse. Le souffle de vie en Genèse. Au vent de Dieu sur les ossements desséchés en Ézéchiel 37. Ou à Jean 3, verset 8, où Jésus compare l'action de l'Esprit au vent qui souffle où il veut. Où nous lisons Jean 3, verset 8, « Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Ainsi, ce signe dit à l'Église, « Le même Dieu qui donne la vie vient maintenant donner puissance et vitalité à son peuple. » L'Église n'est pas une association humaine à laquelle on ajoute une dimension spirituelle. Elle est une communauté créée. Elle est une communauté qui est vivifiée. Elle est une communauté qui est à l'œuvre et en mouvement par l'Esprit Saint. John Stott remarque avec justesse que les signes de la Pentecôte ne sont pas là pour satisfaire notre fascination du spectaculaire, mais pour révéler la signification théologique de l'événement. Le vent parle de la puissance de Dieu, il signale que Dieu lui-même agit. C'est Dieu qui agit. Puis Luc dit, par la suite, il parle des langues semblables à des langues de feu qui leur apparurent. Et le feu dans l'Écriture, quand on parle du feu, ça évoque la présence glorieuse de Dieu. Le buisson ardent, la colonne de feu, la manifestation de la sainteté divine. Mais ici, il y a quelque chose de nouveau. Sous l'ancienne alliance, la gloire de Dieu reposait d'une manière spéciale dans au tabernacle et dans le temple. Maintenant, le feu se pose sur les disciples. Et cela veut dire, Dieu habite désormais son peuple d'une manière nouvelle et d'une manière glorieuse. Nous lisons en Ézéchiel 36, verset 27, « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Jérémie 31, verset 33, annonçait « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Et au chapitre 7 de notre confession de foi sur l'alliance de Dieu, nous sommes enseignés que l'alliance de grâce est révélée plus pleinement dans le Nouveau Testament. Et la Pentecôte est précisément l'un des moments où cette plénitude éclate publiquement. Le feu dit donc, Dieu est présent. Dieu est saint, Dieu consacre son peuple, Dieu purifie son Église et Dieu la met à part pour lui et pour son œuvre. Et Luc poursuit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous. Là encore, le mot « tous » compte vraiment. La Pentecôte est une effusion inaugurale de l'Esprit promise par les prophètes, annoncée par Jean-Baptiste, promise par notre Seigneur Jésus-Christ, et maintenant accomplie par Christ, exalté à la droite du Père. C'est un événement qui est unique dans l'histoire du salut. Un moment fondateur qui est non répétable dans son caractère inaugural. Mais cet événement introduit ce qui devient désormais la condition normale de l'Église. Vivre par par l'Esprit, dépendre de l'Esprit et être animé par l'Esprit. Et cette plénitude de l'Esprit ne produit ni confusion, ni perte de contrôle, ni ivresse spirituelle, ni débordement. Elle produit une puissance qui est sainte, qui est sobre, qui est ordonnée, qui est dirigée vers la gloire de Dieu et vers le témoignage rendu en Christ. Et puis Luc ajoute, ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ici encore, il faut être attentif au texte. Il ne s'agit pas d'un babillage confus, qu'on dit babillage et on a des bébés hein, qui babillent, hein, vous pouvez entendre. Ce n'est pas des babillages confus, non. Ni d'un simple débordement émotionnel, ni d'un phénomène qui est vide de sens. Le contexte montre qu'il s'agit de langues qui sont réelles, intelligibles, qu'on peut entendre, qu'on peut écouter. Et donc pourquoi ce signe ? John Stott nous en donne un élément de réponse et nous lisons. Parce que Dieu annonce déjà, dès la naissance visible de l'Église, que l'évangile de son Fils n'est pas enfermé dans une seule nation, dans une seule culture, dans une seule langue. Parce que Dieu annonce déjà, dès la naissance visible de l'Église, que l'évangile de son Fils n'est pas enfermé dans une seule nation, dans une seule culture et dans une seule langue. Et donc, la Pentecôte proclame que le salut en Jésus-Christ est destiné au peuple, aux nations, aux tribus et aux à toute la terre, tout le monde. Et en un certain sens, ici, nous avons Babel qui commence à être renversé. Là où les langues avaient été le signe d'un dispersement sous le jugement, elles deviennent maintenant par l'Esprit le signe que Dieu rassemble en Christ un peuple pour son nom et pour sa gloire. Ainsi, ce passage nous montre une église qui est habitée par Dieu, une église qui est remplie de l'Esprit et une église qui est envoyée vers les nations. Le feu manifeste la présence sainte de Dieu parmi les siens. La plénitude de l'Esprit manifeste la puissance de Dieu à l'œuvre dans son Église. Et les autres langues manifestent l'ouverture universelle de l'Évangile pour toutes les nations. Et c'est justement ici qu'il nous faut éviter une mauvaise conclusion. Acte 2, 3, 4, c'est versets 3 et 4, ne nous enseigne pas que tout croyant habité par l'Esprit parlera nécessairement en langue. Luc ne nous donne pas ici un test universel de spiritualité. Il nous rapporte l'événement inaugural de la Pentecôte. Un moment unique dans l'histoire de la rédemption. Le signe extraordinaire des langues est donné pour manifester que le Christ exalté a bien répandu son esprit et que l'évangile est désormais destiné à toutes les nations. Ce texte ne dit donc pas « Voici ce que chaque chrétien doit reproduire ». Mais plutôt, voici ce que Dieu accomplit pour inaugurer l'ère nouvelle de son esprit. D'ailleurs, le reste du Nouveau Testament nous empêche de faire du parler en langue la preuve nécessaire de l'habitation de l'esprit. En Actes 4, verset 31, nous lisons, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Donc les croyants sont remplis du Saint-Esprit et l'action et l'accent tombe sur l'assurance avec laquelle ils annoncent la parole de Dieu. Et John Stott de dire que la marque ordinaire de l'esprit dans la vie du croyant n'est donc pas un phénomène spectaculaire imposé à tous, mais une vie transformée, une vie sainte, une vie sobre, une vie ordonnée, une vie attachée à Christ, soumise à sa parole et portant le fruit de l'esprit, dont la maîtrise de soi fait partie. Ce que Luc veut surtout mettre en lumière ici, ce n'est pas une expérience à rechercher pour soi-même, mais l'irruption glorieuse de Dieu dans son Église, afin qu'un peuple rempli de l'Esprit annonce désormais les merveilles de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est précisément ce que Luc va maintenant nous montrer dans la suite du passage. Ce que Dieu accomplit intérieurement dans son peuple devient aussitôt un témoignage public. De sorte que les nations entendent les merveilles de Dieu dans leur propre langue. Et donc mon troisième point, des versets 5 au verset 11. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? » Ici, nous arrivons maintenant au fruit immédiat de l'effusion du Saint-Esprit. C'est-à-dire que les nations entendent. Luc donne une longue liste de peuples et de régions. Et donc, Jérusalem devient ce jour-là un point de convergence du monde dispersé. Et au milieu de ce rassemblement, Dieu fait entendre son message de manière intelligible, d'une façon que tout le monde puisse entendre. En acte 1, verset 8, nous avions déjà une trajectoire, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et acte 2, on présente déjà les prémices ici. À Jérusalem même, les nations sont là. Les nations sont présentes et les nations entendent. Et donc la Pentecôte n'est pas seulement ici la naissance de l'Église, mais aussi l'annonce inaugurale de sa vocation missionnaire, mais aussi universelle. Et le texte insiste au verset 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre propre langue maternelle? Et au verset 11, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues? Et le miracle ici, comme je l'ai dit, il est intelligible. Ce sont des langues que tout le monde entend. C'est des langues intelligibles que tout le monde peut assimiler, entendre et comprendre. Ce sont des langues qui sont humaines, qui sont aussi réelles. Et Jean Calvin, dans son exposition, insiste sur l'utilité ecclésiale du don, où il dit « Dieu ne donne pas des manifestations vides. Il donne ce qui sert à l'édification et à la révélation de sa gloire. Ici, les langues servent à proclamer les œuvres de Dieu de telle sorte que les auditeurs comprennent. Qu'est-ce qui se passerait si nous parlions des langues que personne ne comprendrait? Est-ce que nous serions édifiés? Est-ce que nous pourrions proclamer les gloires de notre Dieu? Cela nous rappelle que le Dieu de la Bible ne se glorifie pas dans la confusion. Le Dieu de la Bible ne se glorifie pas dans nos égarements, dans notre désordre. Il se fait connaître clairement dans sa parole. Il parle pour être entendu, il révèle pour être cru. Et c'est pourquoi dans l'Église, nous devons aimer la lecture claire de la parole. Une prédication qui est intelligible, que nous comprenons tous. Nous devons aimer le culte ordonné et les moyens de grâce parfaitement administrés. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce qui se passerait si on ne comprenait pas ce que Dieu dit dans sa parole? Si on n'entendait que du charabia, est-ce qu'on serait exhorté? Est-ce qu'on serait édifié? Le lien avec Genèse 11 mérite ici d'être mis en lumière. À Babel, les hommes s'unissent dans l'orgueil pour se faire un nom. Dieu les juge en condamnant leur langage et en les dispersant. À la Pentecôte, Dieu ne supprime pas la diversité des langues. Il la traverse par sa grâce. Dieu descend. Non, il ne produit pas une uniformité humaine. Il fait entendre un même message glorieux au sein de la diversité des peuples. À Babel, l'homme voulait monter vers Dieu par orgueil. À la Pentecôte, Dieu descend vers son peuple par sa grâce. À Babel, l'homme voulait se faire un nom. À la Pentecôte, Dieu glorifie le nom de Christ. Et voilà l'unité véritable. Non pas une unité qui est fabriquée par l'homme. Non pas une unité culturelle ou politique, mais une unité qui est créée par l'Évangile. Et dans nos contextes, souvent marqués par des identités culturelles fortes, différentes, ce texte nous rappelle que l'unité de l'Église n'est ni ethnique, ni sociale, ni politique. Elle est en Jésus-Christ, par le même esprit et dans la vérité. Et par la suite, nous lisons les merveilles de Dieu. Quel est le contenu de leur proclamation? Quel est le contenu de leur proclamation? Les merveilles de Dieu. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? L'Esprit descend et ce qui remplit la bouche des disciples, ce ne sont pas leurs propres exploits. Ce n'est pas eux, ni leur état d'âme. Ce sont les merveilles de Dieu. Et dans le contexte de Acte 2, ces merveilles de Dieu culminent en Jésus-Christ. Sa venue, son œuvre, sa mort expiatoire, sa résurrection, son exaltation et maintenant le don de l'Esprit. Et donc la Pentecôte n'est jamais isolée de Christ. Elle est l'une des grandes manifestations de son règne de médiation. Christ comme médiateur a acquis et applique efficacement à ses élus tous les bienfaits du salut. Le Christ exalté répond l'esprit qu'il a promis sur son peuple. Et donc, il parlait des merveilles de Dieu. Mais nous, que remplit nos bouches? Que remplit nos bouches? Est-ce les merveilles de Dieu ou nos propres préoccupations? Est-ce que notre témoignage met-il Dieu au centre? Luc nous apprend ici qu'une église remplie de l'Esprit doit être une église où Dieu est grand, où Christ est central et où l'Évangile est clair et compréhensible. Mon quatrième point, des versets 12 au verset 13. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Et donc là, on va voir que le même événement, la même proclamation, nous voyons deux réactions. Deux réactions. Les réactions des visiteurs qui entendaient ces langues étaient diverses. Certains semblaient très intéressés, tandis que d'autres accusaient les apôtres d'être pleins de vin doux. On dit plein de vin doux, c'est-à-dire qu'un peu saoul, avec un tout petit peu de vin, donc pas sérieux. Les disciples étaient certes sous une influence qu'ils ne pouvaient contrôler, mais c'était celle du Saint-Esprit et non celle du vin. Certains demandent, que veut dire ceci? C'est une question honnête, aussi nécessaire. Mais ça veut dire que ce n'est pas encore la foi. On peut être impressionné par l'œuvre de Dieu et aussi rester inconverti. On peut être exposé à la parole de Dieu et ne pas comprendre ce que notre Dieu dit dans sa parole. Ce qu'il faut encore, c'est l'interprétation apostolique de l'événement. Et c'est précisément ce que Pierre donnera dans la suite du chapitre à partir du verset 14. Le signe doit être expliqué par la parole. Par la parole. L'expérience doit être interprétée par l'Écriture. Et c'est un principe fondamental pour nous. Ce n'est pas par des interprétations humaines ou psychologiques. Nous ne bâtissons pas notre foi sur des phénomènes. Nous recevons avec foi la signification que Dieu lui-même donne à son œuvre dans sa parole. Les incroyants sont toujours prêts à fournir une explication naturelle à des phénomènes spirituels. On le voit quand Jésus annonce sa crucifixion en Jean 12. La voix de Dieu se fit entendre des cieux en Jean 12, verset 29. Mais la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre, alors que c'est Dieu qui parlait. Et donc, d'autres au contraire se moquaient. Ils sont pleins de vin doux. Et ça, c'est une forme d'incrédulité. L'incrédulité cherche toujours à réduire l'œuvre de Dieu à quelque chose de banal, à quelque chose de psychologique, à quelque chose de ridicule. Mais remarquez ceci, la moquerie du monde, l'ironie du monde, ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu. Les moqueries de ce monde ne peuvent pas arrêter ou stopper le plan de Dieu. Elle devient même l'occasion d'une prédication plus claire. Et cela, nous aussi, et cela nous instruit également. L'Église ne doit pas être surprise, si le témoignage fidèle suscite parfois l'étonnement, l'incompréhension, le mépris, le rejet. Parce que c'est ce que nous allons vivre en tant que chrétiens, en tant que croyants. Et des fois, c'est même dans nos propres familles. Ne cherchons donc pas un christianisme qui ne scandalise personne. Mais veillons à ce que ce soit bien l'évangile qui bouscule, qui touche, qui change, et non notre orgueil, et non notre agir, et non nos façons de faire. Avant de conclure, retenons quelques applications. Premièrement, la Pentecôte confirme le règne présent de Christ. Le Christ est monté au ciel, mais il n'est pas absent. Il règne, il gouverne toutes choses. Il agit, il répand son esprit et surtout, il bâtit son Église. Deuxièmement, le Saint-Esprit glorifie Christ par la vérité. Et donc, toute prétention à l'action de l'Esprit doit être éprouvée bibliquement. Christ est-il exalté? La parole est-elle honorée? La vérité prêchée est-elle claire? Est-ce que nous la comprenons? La sainteté est-elle recherchée dans l'Église? Et enfin, surtout, chose très importante, est-ce que l'Église est édifiée? Troisièmement, nous voyons ici aussi que l'Église est missionnaire par nature. La Pentecôte pousse vers les nations et une Église remplie de l'Esprit ne vit pas pour elle-même. Elle prie, elle envoie, elle annonce, elle accueille et elle témoigne. Enfin, quatrième application, les moyens ordinaires de grâce demeurent centraux pour nous. La Pentecôte est un événement extraordinaire et inaugural. Mais la suite de Actes 2 montrera immédiatement la vie ordinaire de l'Église. L'enseignement apostolique, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Et notre confession de foi, lorsque nous lisons dans les chapitres 1er, 22 et 26, de l'Église et des Écritures saintes, nous permet de garder cet équilibre, d'être enracinés dans la parole de Dieu. Nous ne recherchons pas à reproduire artificiellement les signes inauguraux du temps apostolique, mais nous cherchons à être fidèles aux moyens ordinaires par lesquels l'Esprit agit ordinairement. Donc en conclusion, acte 2, versets 1 à 13, nous montre que la Pentecôte est l'œuvre du Dieu trinitaire. Le Père accomplit sa promesse. Le Fils, exalté, répand l'Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter et équiper l'Église. Ce passage nous enseigne que l'Église ne naît pas de la volonté de l'homme, mais de la puissance de Dieu. Il nous enseigne que la vraie œuvre de l'Esprit n'est pas centrée sur l'homme, mais sur les merveilles de Dieu à la gloire de Jésus-Christ. Il nous enseigne que l'Évangile est pour les nations. Il nous enseigne que l'œuvre de Dieu révèle les cœurs. Certains demanderont humblement, mais d'autres vont se moquer. Mais par-dessus tout, notre Christ règne. Notre Christ, il est puissant. Et notre Christ agit par son Esprit. Et parce qu'il règne, son Église, nous, son peuple, nous pouvons avancer avec assurance. Alors, que devons-nous faire? Attendre Dieu dans la prière. Comme au chapitre 1, attendre notre Dieu dans la prière. Espérer en lui. Recevoir sa parole avec foi. Dépendre du Saint-Esprit. Aimer l'Église. Aimer les saints. Vivre dans la sainteté. Et enfin, proclamer les merveilles de Dieu. Que le Seigneur fasse de nous une assemblée forte, une assemblée qui est sobre, une assemblée qui est fervente, une assemblée biblique, sainte et missionnaire. Une assemblée où le Saint-Esprit glorifie le Christ par la vérité de l'Évangile. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, éternel tout-puissant, nous te bénissons pour ta fidélité parfaite, car tu accomplis toutes les promesses en ton Fils bien-aimé, notre Sauveur Jésus-Christ. Nous te louons, éternel, pour la Pentecôte, pour le don du Saint-Esprit, pour la naissance visible, éternelle, de ton Église, dans ta grande puissance. Pardonne-nous, éternel, lorsque nous comptons trop souvent sur nos forces. Nous comptons sur nos méthodes, sur notre soi-disant sagesse humaine, Seigneur. Apprends-nous, éternel, à dépendre de toi. Apprends-nous, éternel, à prier avec ferveur et à dépendre de ton esprit. Donne-nous, éternel, d'être une église unie, une église qui est sainte, une église qui est attachée à ta parole, fidèle dans la doctrine et persévérante dans la prière. Merci pour ta parole qui est bénie. Merci pour cette parole qui nous édifie tant, cette parole que nous comprenons, Seigneur. Que ton esprit remplisse nos vies afin que nous puissions glorifier Christ. Lui rend toute la gloire qui lui est due. Que nous puissions annoncer ses merveilles aux extrémités de la terre, autour de nous, dans nos familles, dans nos emplois respectifs, éternels. Fais de nous des disciples zélés, engagés pour ton œuvre. À ta plus grande gloire éternelle, notre Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, que nous te prions. Amen.